Le général, accoutumé par les événements de la guerre à des idées assez larges en fait de butin, accepta les présents offerts par sa fille et se plut à penser que, sous l'inspiration d'une âme aussi pure, aussi élevée que celle d'Hélène, le capitaine parisien restait honnête homme en faisant la guerre aux Espagnols. Sa passion pour les braves l'emporta. Songeant qu'il serait ridicule de se conduire en prude, il serra vigoureusement la main du corsaire, embrassa son Hélène, sa seule fille, avec cette effusion particulière aux soldats, et laissa tomber une larme sur ce visage, dont la fierté, dont l'expression mâle, lui avait plus d'une fois souri. Le marin, fortement ému, lui donna ses enfants à bénir. Enfin, tous se dirent une dernière fois adieu par un long regard qui ne fut pas dénué d'attendrissement. « Soyez toujours heureux !» s'écria le grand-père en s'élançant sur le tillac. Sur mer, un singulier spectacle attendait le général. Le Saint-Ferdinand, livré aux flammes, flambait comme un immense feu de paille. Les matelots, occupés à couler le brick espagnol, s'aperçurent qu'il avait à bord un chargement de rhum, liqueur qui abondait sur l'Othello, et trouvèrent plaisant d'allumer un grand bol de punch en pleine mer. C'était un divertissement assez pardonnable à des gens auxquels l'apparente monotonie de la mer faisait saisir toutes les occasions d'animer leur vie. En descendant du brick, dans la chaloupe du Saint-Ferdinand, montée par 6 vigoureux matelots, le général partageait involontairement son attention entre l'incendie du Saint-Ferdinand et sa fille appuyée sur le corsaire, tous deux debout à l'arrière de leur navire. En présence de tant de souvenirs, en voyant la robe blanche d'Hélène qui flottait, légère comme une voile de plus, en distinguant sur l'océan cette belle et grande figure, assez imposante pour tout dominer, même la mer, il oubliait, avec l'insouciance d'un militaire, qu'il voguait sur la tombe du brave Gomez. Au-dessus de lui, une immense colonne de fumée planait comme un nuage brun, et les rayons du soleil, le perçant çà et là, y jetaient de poétiques lueurs. C'était un second ciel, un dôme sombre sous lequel brillaient des espèces de lustres et au-dessus duquel planait l'azur inaltérable du firmament, qui paraissait mille fois plus beau par cette éphémère opposition. Les teintes bizarres de cette fumée, tantôt jaunes, blondes, rouges, noires, fondues vaporeusement, couvraient le vaisseau qui pétillait, craquait. Et criait. La flamme sifflait en mordant les cordages et courait dans le bâtiment comme une sédition populaire vole par les rues d'une ville. Le rhum produisait des flammes bleues qui frétillaient, comme si le génie des mers eût agité cette liqueur furibonde. De même qu'une main d'étudiant fait mouvoir la joyeuse flamberie d'un punch dans une orgie. Mais le soleil, plus puissant de lumière, jaloux de cette lueur insolente, laissait à peine voir dans ses rayons les couleurs de cet incendie. C'était comme un réseau, comme une écharpe qui voltigeait au milieu du torrent de ses feux. L'Othello saisissait pour s'enfuir le peu de vent qu'il pouvait pincer dans cette direction nouvelle, et s'inclinait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme un cerf-volant balancé dans les airs. Ce beau brick courait débordé vers le sud, et tantôt il se dérobait aux yeux du général, en disparaissant derrière la colonne droite, dont l'ombre se projetait fantastiquement sur les eaux, et tantôt il se montrait, en se relevant avec grâce et fuyant. Chaque fois qu'Hélène pouvait apercevoir son père, elle agitait son mouchoir pour le saluer encore. Bientôt le Saint-Ferdinand coula, en produisant un bouillonnement aussitôt effacé par l'océan. Il ne resta plus alors de toute cette scène qu'un nuage balancé par la brise. L'Othello était loin. La chaloupe s'approchait de terre. Le nuage s'interposa entre cette frêle embarcation et le brick. La dernière fois que le général aperçut sa fille, ce fut à travers une crevasse de cette fumée ondoyante. Vision prophétique. Le mouchoir blanc, la robe se détachait seule sur ce fond de bistre. Entre l'eau verte et le ciel bleu, le brick ne se voyait même pas. Hélène n'était plus qu'un point perceptible, une ligne déliée, gracieuse, un ange dans le ciel, une idée, un souvenir. Après avoir rétabli sa fortune, le marquis mourut épuisé de fatigue. Quelques mois après sa mort, en 1833, la marquise fut obligée de mener Moïna aux eaux des Pyrénées. La capricieuse enfant voulut voir les beautés de ces montagnes. Elle revint aux eaux, et à son retour, il se passa l'horrible scène que voici. « Mon Dieu !» dit Moïna, « nous avons bien mal fait, ma mère, de ne pas rester quelques jours de plus dans les montagnes. Nous y étions bien mieux qu'ici. Avez-vous entendu les gémissements continuels de ce maudit enfant et les bavardages de cette malheureuse femme qui parle sans doute en patois, car je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle disait. Quelle espèce de gens nous a-t-on donné pour voisins ? Cette nuit est une des plus affreuses que j'ai passées de ma vie. »
« Je n'ai rien entendu, » répondit la marquise.
« Mais, ma chère enfant, je vais voir l'hôtesse, lui demander la chambre voisine. Nous serons seuls dans cet appartement et n'aurons plus de bruit. Comment te trouves-tu ce matin ? Es-tu fatiguée ?» En disant ces dernières phrases, la marquise s'était levée pour venir près du lit de Moïna. « Voyons, » lui dit-elle en cherchant la main de sa fille. « Oh, laisse-moi, ma mère !» répondit Moïna. « Tu as froid !» À ces mots, la jeune fille se roula dans son oreiller par un mouvement de bouderie, mais si gracieux qu'il était difficile à une mère de s'en offenser. En ce moment, une plainte, dont l'accent doux et prolongé devait déchirer le cœur d'une femme, retentit dans la chambre voisine.
« Mais si tu as entendu cela pendant toute la nuit, pourquoi ne m'as-tu pas éveillée ? Nous aurions... »
Un gémissement plus profond que tous les autres interrompit la marquise, qui s'écria « Il y a quelqu'un qui se meurt !» Et elle sortit vivement. « Envoie-moi Pauline !» cria Moïna. « Je vais m'habiller !» La marquise descendit promptement et trouva l'hôtesse dans la cour, au milieu de quelques personnes qui paraissaient l'écouter attentivement. « Madame, vous avez mis près de nous une personne qui paraît souffrir beaucoup. »«
Ah, ne m'en parlez pas !» s'écria la maîtresse de l'hôtel. « Je viens d'envoyer chercher le maire. Figurez-vous que c'est une femme, une pauvre malheureuse qui est arrivée hier au soir, à pied. » Elle vient d'Espagne. Elle est sans passeport et sans argent. Elle portait sur son dos un petit enfant qui se meurt. Je n'ai pas pu me dispenser de la recevoir ici. Ce matin, je suis allée moi-même la voir, car hier, quand elle a débarqué ici, elle m'a fait une peine affreuse. Pauvre petite femme. Elle était couchée avec son enfant et tous deux se débattaient contre la mort.
Madame, m'a-t-elle dit en tirant un anneau d'or de son doigt. « Je ne possède plus que cela. Prenez-le pour vous payer. Ce sera suffisant. Je ne ferai pas long séjour ici. Pauvre petit, nous allons mourir ensemble. »
Qu'elle dit en regardant son enfant. Je lui ai pris son anneau. Je lui ai demandé qui elle était. Mais elle n'a jamais voulu me dire son nom. Je viens d'envoyer chercher le médecin et monsieur le maire. S'écria la marquise. « Donnez-lui tous les secours qui pourront lui être nécessaires. Mon Dieu, peut-être est-il encore temps de la sauver. Je vous paierai tout ce qu'elle dépensera. »«
Ah, madame, elle a l'air d'être joliment fière, et je ne sais pas si elle voudra. Je vais aller la voir. » Et aussitôt, la marquise monta chez l'inconnue, sans penser au mal que sa vue pouvait faire à cette femme, dans un moment où on la disait mourante, car elle était encore en deuil. La marquise pâlit à l'aspect de la mourante. Malgré les horribles souffrances qui avaient altéré la belle physionomie d'Hélène, elle reconnut sa fille aînée. À l'aspect d'une femme vêtue de noir, Hélène se dressa sur son séant, jeta un cri de terreur et retomba lentement sur son lit, lorsque, dans cette femme, elle retrouva sa mère.
« Ma fille, dit madame d'Aiglemont, que vous faut-il, Pauline, Moïna ?»«
Il ne me faut plus rien, répondit Hélène d'une voix affaiblie. J'espérais revoir mon père, mais votre deuil m'annonce. »
Elle n'acheva pas. Elle serra son enfant sur son cœur comme pour le réchauffer, le baisa au front, et lança sur sa mère un regard où le reproche se lisait encore, quoique tempéré par le pardon.
La marquise ne voulut pas voir ce reproche. Elle oublia qu'Hélène était un enfant conçu jadis dans les larmes et le désespoir. L'enfant du devoir, un enfant qui avait été cause de ses plus grands malheurs. Elle s'avança doucement vers sa fille aînée, en se souvenant seulement qu'Hélène, la première, lui avait fait connaître les plaisirs de la maternité. Les yeux de la mère étaient pleins de larmes, et en embrassant sa fille, elle s'écria « Hélène, ma fille !» Hélène gardait le silence. Elle venait d'aspirer le dernier soupir de son dernier enfant. En ce moment, Moïna, Pauline, sa femme de chambre, l'hôtesse et un médecin entrèrent. La marquise tenait la main glacée de sa fille dans les siennes et la contemplait avec un désespoir vrai. Exaspérée par le malheur, la veuve du marin, qui venait d'échapper à un naufrage, en ne sauvant de toute sa belle famille qu'un enfant, dit d'une voix horrible à sa mère « Tout ceci est votre ouvrage, si vous eussiez été pour moi ce que… » « Moïna, sortez, sortez tous !» cria madame d'Aiglemont en étouffant la voix d'Hélène par les éclats de la sienne. « Par grâce, ma fille, reprit-elle, ne renouvelons pas en ce moment les tristes combats. » « Je me tairai, » répondit Hélène en faisant un effort surnaturel. « Je suis mère. Je sais que Moïna ne doit pas… Où est mon enfant ?» Moïna rentra, poussée par la curiosité. « Ma sœur, » dit cet enfant gâté, « le médecin… »«
Tout est inutile, » reprit Hélène.
« Ah, pourquoi ne suis-je pas morte à 16 ans quand je voulais me tuer ?» Le bonheur ne se trouve jamais en dehors des lois. Moïna, tu… »
Elle mourut, en penchant sa tête sur celle de son enfant, qu'elle avait serrée convulsivement.
« Ta sœur voulait sans doute te dire, Moïna, » reprit madame d'Aiglemont, lorsqu'elle fut rentrée dans sa chambre où elle fondit en larmes, que le bonheur ne se trouve jamais pour une fille dans une vie romanesque, en dehors des idées reçues, et surtout loin de sa mère. »